Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Loin de la fureur du monde » de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, lu par Nadia Benzacour. À nos enfants, Clara, Valentin et Louis, que leur choix les garde loin de la fureur du monde. Acte 1. La rumeur. Chapitre 1. Le 15 août. Un bouquet de fleurs sauvages à la main, Alix Ravaillé contemplait l'horizon abandonnant son visage au vent chaud. Par temps clair, le regard portait de la plaine des Pyrénées jusqu'aux remparts de la cité de Carcassonne, bien au-delà des limites de la Mâchecombe. Réputé comme l'un des plus beaux d'Europe, ce massif forestier comprenait une vaste partie interdite au public depuis 1920, une forêt dense où les rayons du soleil peinaient à atteindre le sol. Sa végétation inextricable avait envahi les sentiers originels et contribué à sa réputation aussi mystérieuse que dangereuse. Les gens du coin ne s'y aventuraient guère. Certains étaient persuadés que ces arbres millénaires exhalaient un poison mortel, d'autres que sa terre parsemée de gouffres insondables engloutissait les cadavres, et d'autres encore qu'elle abritait une tribu de cannibales. Des sauvages chevelus et barbus, des hommes au corps peint qui descendaient de temps en temps de la montagne pour se nourrir de chair fraîche. Loin de s'atténuer avec le temps, la rumeur avait continué de grandir, alimentée par un incendie monstre qui, une petite décennie plus tôt, avait piégé plusieurs personnes, dont un groupe de chasseurs. Alimentée aussi par les nombreuses disparitions inexpliquées qui s'étaient succédées depuis les années 70, suicides, fugues ou accidents. Là, une trentaine de personnes s'étaient volatilisées, touristes, randonneurs ou pêcheurs dont on ne retrouvait que la voiture, des traces ou parfois les effets personnels imbibés de sang. Les anciens prétendaient même que la Mâchecombe avait dévoré une section de la Waffen-SS en 43, avec leurs armes, leurs casques et toute leur malveillance. Des militaires aguerris, digérés par la montagne. Rien n'avait été régurgité. Pas un os, pas un crâne, pas même une dent en or. Longtemps, Alix n'avait prêté qu'une attention récréative à cette rumeur. Depuis l'adolescence, ses camarades et elle s'étaient maintes fois aventurés jusqu'au belvédère pour franchir les frontières de la forêt primaire, s'amusant à se faire peur avec la légende locale comme d'autres ailleurs, défient la Dame Blanche ou visite un château hanté. Jusqu'au jour où sa mère n'en était pas revenue. Solange était morte seule à quelques kilomètres de sa maison. Combien de temps avait-elle survécu? Était-elle consciente lorsque la rumeur l'avait emportée? Que lui était-il arrivé exactement? Avait-elle chuté dans un ravin? Était attaquée par un ours ou un loup? Par un homme? Tant de questions demeuraient. Tant de meurtrissures dans le cœur des siens. Tant de culpabilité aussi que rien ni personne n'était parvenu à adoucir. Depuis chaque 15 août, Alix venait se recueillir sur ce parking situé à 1600 mètres d'altitude, accompagné de son petit frère et de leur père. Aujourd'hui encore, après 8 ans, Robert Ravaillé était un homme à moitié vivant sans Solange. « Je le pose où, papa ?» demanda Noah, qui avait récupéré le bouquet des mains d'Alix. « Ta maman adorait venir là, alors où tu veux. » En scrutant l'ombre qui enveloppait le chemin à l'endroit où sa mère s'était enfoncée dans la forêt, Alix éprouva le curieux sentiment qu'on l'épiait, comme chaque fois qu'elle se rendait ici. Dans le fond, c'était juste un 15 août, date où elle revivait l'horreur du deuil, les marques indélébiles, le manque à jamais. Même la forêt exhalait les parfums de cette journée où sa vie avait basculé. La terrible réputation du lieu n'avait jamais effrayé Solange, qui avait toujours préféré les sentiers de la Mâchecombe aux rues pavées du village pour s'adonner au sport en plein air ou promener Noah. À l'époque, il avait le visage rond et souriant des bébés comblés, comme sur les paquets de couches. À bientôt 9 ans, c'était un enfant fragile et renfermé. Il ne gardait aucun souvenir de sa mère et vouait une admiration sans borne à sa sœur aînée qui l'avait élevée. Adolescente, Alix n'avait pas tout de suite eu conscience de la détresse de son père, qui avait masqué son chagrin pour qu'elle puisse vivre le sien. Quand elle l'avait compris, elle s'était efforcée de le rendre à cette famille brisée, son équilibre, et y était parvenue. Après son master de droit, elle avait intégré la police municipale